Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 33. Voici Stéphane Carpentier, Alice Morel, Brice Dugénie, Laurent Tessier, Greg Caranoni et Cyprien Sini.
Qui ça?
Toute l'équipe est là. Tout est là pour vous accompagner.
Le mec, il lâche rien, même à l'antenne, il le dit.
Il le dit pendant la pub, mais il le dit à l'antenne aussi. C'est terrible.
Tellement fier.
C'est jusqu'à 20h, on vous accompagne. C'est toute l'actualité, bien sûr, décryptée, mais avec bonne humeur, s'il vous plaît. Vous commentez, vous réagissez, le compte Twitter à disposition et la page Facebook de l'émission. C'est la saison 2 et voici le sommaire.
Comme une enquête sans fin, nouvelle recherche infructueuse pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin. On défait le monde vous propose une immersion dans les coulisses de l'affaire Fourniret. Quand déconfinement rime avec abandon d'animaux, on allumera la lumière sur ce phénomène étonnant qui inquiète les défenseurs des animaux. Le loser de la semaine, le grand perdant, choisi par Laurent ce soir et cette semaine, un député qui aurait mieux fait de réviser avant d'aller sur un plateau télé.
Bataille de chiffres, mais ce politicien aurait dû prendre la bonne fiche.
Le billet retour de Brice Dugénie quand on vous donne des nouvelles d'une info qui a quitté la une de l'actu. Et cette semaine, Aung San Suu Kyi et la Birmanie.
Oui, trois mois après le coup d'état militaire, où en est le pays et où se trouve la prix Nobel 1991?
D'ici 20h, évidemment, vos trois infos pour briller au dîner. Dans Marche ou Rêve, on prendra des nouvelles de l'homme qui a décidé de courir pour la bonne cause le long du Nil. On l'avait eu avant son départ. Et ben, je peux vous dire que depuis, il lui est arrivé de sacrées péripéties. Hein. Et bien entendu, le jeu avec déconfinement oblige à gagner une semaine de vacances pour 4. On défait le monde, saison 2, épisode 33.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Aventure, nous voilà.
On défait le monde dans RTL Soir.
Retour de la sobriété, bien sûr.
C'est ce qui vous caractérise, évidemment, Greg.
On y va pour le surf de la semaine. Il surfe du lundi au vendredi, rien que pour vous, 7h moins le carré, juste avant 8h. Mais le vendredi, c'est la version longue, Cyprien.
Eh bien, cette semaine, enfin des nouvelles de notre Che Guevara à nous, de notre guerrier de la canebière, Jean-Luc Mélenchon. Vous le savez, ça faisait 15 jours qu'il était parti en stage en Amérique du Sud, dont il nous a envoyé d'ailleurs quelques nouvelles. En pleine bourre, Juan Lucho Melanchones de la Pampa, comme on l'appelle là-bas, on sent qu'il s'est régalé.
Bonjour, je m'adresse à vous depuis l'Équateur, dans les conditions mentales d'un homme qui encaisse un décalage horaire de 6 heures. Bonjour, nous sommes à La Paz. La moitié de la journée, j'étouffe. Physiquement, c'est une épreuve. Entre le manque d'oxygène et le masque, ah, c'est le pompon.
Ravi d'être là-bas, en pleine bourre. Bon, après, contrairement à ce qu'ont pu dire les mauvaises langues, il était vraiment pour bosser. Hein. Bon, pas que, non plus quand même, hein, mais...
Vous dansez bien.
Attention, ceci est un message sponsorisé par l'Office du Tourisme de Bolivie.
Le lac Titicaca apparaît quand vous êtes sur la route, tout d'un coup. Et à ce moment-là, vous réalisez un mariage de lumière et de couleurs que sans doute on ne voit nulle part ailleurs. Et je ne crois pas avoir vu de ma vie un ciel d'un bleu aussi pur avec son reflet sur une étendue d'eau.
Ah, la Bolivie, c'est pour la vie. Bref, depuis, il a quand même fini par rentrer en quarantaine chez lui, là. Et il a découvert l'actu en France. Et il y a quand même un truc qui l'a fait bondir, attention.
Monsieur de Villiers, en pleine page, dit « j'appelle à l'insurrection ». Cette attitude est à dénoncer car elle fait l'objet de sanctions du code pénal.
Ah bah oui, il dénonce un homme politique, Philippe de Villiers, parce qu'il appelle à l'insurrection. Il cite même le code pénal. Choqué, Jean-Luc, mais alors, attendez. Un politique qui appelle régulièrement à l'insurrection, ça vous rappelle pas quelqu'un, vous? Ah bah, dites donc.
Quelle est la première tâche que doit accomplir notre insurrection? Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple.
Il y a un moment où il y a un devoir et un droit d'insurrection contre un ordre injuste.
En fait, l'appel à l'insurrection, c'est comme avec les chasseurs.
Bon, t'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur. Hein.
Ben ouais, il y a la bonne insurrection et puis il y a la mauvaise insurrection, c'est pareil. Sinon, le lapsus de la semaine, enfin j'espère que c'est un lapsus, hein. Sinon c'est qu'il y a un gros problème. Écoutez bien, ça concerne l'aide de la France à l'Inde.
La France doit envoyer 8 unités de production d'oxygène qui vont permettre de soulager 10 000 patients par jour. Dans les soutes d'avions, il y a également des restaurateurs.
Hein, quoi, pardon là.
Dans les soutes d'avions, il y a également des restaurateurs.
Ah, on leur a envoyé des restaurateurs qu'on a foutus dans la soute des avions, dites donc. Je ne suis pas certain que ça les aide vraiment. Bon, alors, après enquête, il s'agirait plutôt de respirateurs, évidemment. Enfin, dans la série Tout fout le camp, rien ne va plus sur la chaîne CNews, où sévit désormais un dangereux gauchiste, oui, Pascal Praud. Si, si, Pascal, qui cette semaine nous a rappelé à quel point les plateaux des débats font la part belle aux différents points de vue sur CNews. Attention, séquence pluralité.
Écoutez, sur la PMA, la GPA, le mariage pour tous, tous ces sujets sociétaux, je suis à 100% pour, pardonnez-moi.
Oui. Sur la GPA,
vous bah, évidemment.
Non, non, sûr. Pas la GPA, ne dis pas ça. Ah non, moi là, franchement, Pascal, le mot t'a échappé.
Le gauchiste du plateau, je suis
le mot t'a échappé.
Il a réussi à choquer l'ensemble du plateau, tout seul, seul contre tous. Alors, suite à cette sortie gauchisante, Pascal gardera-t-il sa place sur CNews pour le savoir? Eh bien, vivement la semaine prochaine.
Vivement la semaine prochaine. Le surfeur Cyprien Sini dans On défait le monde. Il est 19h21.
RTL Soir, on défait le monde.
On en vient à la grosse info de cette semaine qui nous emmène dans les Ardennes sur les traces des crimes de Michel Fourniret.
Et nous, ce soir, dans On défait le monde, ben, on a voulu s'intéresser à la façon dont sont organisées ces fouilles macabres à la recherche des victimes. Comment ça se passe concrètement? Et pour ça, eh ben, on a la chance d'avoir Alice Moreno du service police-justice avec nous. Alors, bonsoir. Vous étiez sur place, bonsoir, dans les Ardennes cette semaine pour RTL. Vous allez nous raconter l'envers du décor. Mais alors, d'abord, première chose. Ces fouilles-là, c'est un acte d'enquête. Ça devrait donc être soumis au secret de l'instruction. Mmh. Alors, comment vous êtes mise au courant, vous, qui avez
l'air Alors, je vais vous décevoir un petit peu, mais c'est une des règles d'or. On garde nos sources secrètes.
Ah ouais.
Je vous donne un indice, c'est pas une révélation. On est en contact très régulier avec les avocats de ce dossier fleuve. On a d'abord eu confirmation des aveux de Monique Olivier, l'ex-femme de Fourniret. Elle dit qu'elle était là quand il a transporté, enterré le corps de la fillette jusque dans cette zone boisée, dans les Ardennes, à Issancourt. Quant aux fouilles, le lieu, l'heure, le calendrier des recherches, eh bien les avocats et le service de communication de la gendarmerie tout simplement nous ont aiguillés.
Et là, vous débarquez sur les lieux. Quelle tête y font les gendarmes quand ils vous voient arriver, parce qu'ils ne sont pas censés être au courant, forcément.
Oui, mais sur une affaire comme celle-là, les gendarmes qui sécurisent la zone s'attendent à nous voir. On a un rapport cordial avec eux. Mmh. Les jours passent, on se reconnaît, on se salue, voilà.
Et comment vous suivez ces fouilles? Parce que j'imagine que vous êtes tenu à l'écart quand même.
Alors, je vous confirme qu'on n'a pas accès à la zone des fouilles. Si on essaie de s'infiltrer, des militaires qui font la vigie sur les hauteurs nous arrêtent très vite. À pied, on est gentiment raccompagné un peu plus loin, même à travers champs. Et en voiture, seuls les riverains peuvent passer les barrières avec une pièce d'identité. Alors, comment on suit une opération avec un tel dispositif? Eh bien, on est en lien par téléphone avec les avocats. Et puis, à force de passer des heures sur place, on discute avec des voisins qui finissent, pour certains, par nous ouvrir leur jardin. Là, on a une vue sur le chantier des fouilles. Ouais. Et puis, tous les soirs, les avocats font des points détaillés sur place. On échange beaucoup aussi entre journalistes. On est plutôt solidaires dans ce genre de situation.
Quelle était l'ambiance dans le village, Alice?
Eh bien, elle était très particulière, forcément. 400 personnes vivent à Issancourt, petite commune paisible au cœur des collines ardennaises, au milieu des marais, des dizaines de fourgons, de pelleteuses qui débarquent, une colline rasée, une forêt à terre que beaucoup de riverains fréquentent depuis des années. Ils se promènent habituellement dans ce sous-bois et sont maintenant horrifiés à l'idée que Michel Fourniret ait pu enterrer une fillette à cet endroit.
Mais alors maintenant on le sait, il n'y a pas de trace d'Estelle, mais est-ce qu'à un moment vous y avez cru quand même?
Oui, on y a cru. Les avocats, les enquêteurs ne cessaient de parler d'une piste sérieuse depuis des semaines. Et puis le dernier jour des fouilles, on a eu très peu d'infos de la part des avocats. Il y a eu un petit moment de flottement. On s'est demandé si quelque chose d'important était en train de se passer. On a tous foncé à la gendarmerie de Sedan, à un quart d'heure de la zone des fouilles, où Monique Olivier était interrogée une dernière fois. Et puis sur place, nous attendions fébriles, mais pour apprendre finalement que rien n'avait été découvert.
C'est Monique Olivier qui avait indiqué cette zone. Ça veut dire quoi? Elle aurait menti?
Alors, on aura toujours des doutes. Bien sûr, elle a menti plusieurs fois dans le passé. Mais cette fois, les enquêteurs y croyaient particulièrement. Donc, je vous le disais, les avocats aussi, ils ont parlé sans cesse de cette piste sérieuse, confortée par plusieurs éléments de preuve qui menaient à cette zone. Il faut tenir compte de la nature du terrain. La terre était peu profonde et très meuble. Si Michel Fourniret a enterré Estelle à cet endroit, bah c'était pas très loin de la surface. Et 18 ans plus tard, le terrain a pu être modifié. Les intempéries, les animaux sont autant de facteurs qui ont pu effacer les traces de l'enfant.
Et alors, vous n'êtes pas seulement resté sur la zone de fouille, hein, un peu partout dans les Ardennes. En fait, il y a l'ombre de Michel Fourniret qui plane.
Oui, Michel Fourniret est né, a grandi, a commis la plupart de ses crimes dans les Ardennes. au château du Sautou, à Ville-sur-Lume, à Floin, sur des communes voisines les unes des autres en enfilade. Hein. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont côtoyé Michel Fourniret. Et ça, je les ai rencontrés en à peine 48 heures sur place. L'un d'entre eux avait sa fille en classe avec l'une des victimes de Fourniret. Un autre avait travaillé pour lui sur un chantier. Des Ardennais qui ont découvert bien plus tard la part sombre de l'ogre des Ardennes. En ont d'ailleurs un peu assez que ce nom soit sans cesse associé à leur région. Ah bah ouais.
Merci beaucoup Alice Moreno du service police-justice de RTL pour ses coulisses ce soir. Grosse info dans On défait le monde. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Vous restez bien là. La première info pour briller au dîner, c'est avec Laurent Tessier et c'est juste après ça.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
19h28, la première de ce soir, info pour briller au dîner avec Laurent Tessier.
Oui, je voulais vous parler d'une conséquence inattendue de la crise du Covid-19. Non. Les prévisions météo sont beaucoup moins précises depuis un an. Il existe plusieurs systèmes pour les réaliser, notamment la collecte de données grâce aux avions de ligne. Quand ils volent, ils enregistrent des données météo importantes avec des capteurs. Ces données sont ensuite reprises par des algorithmes météo. Et ça ne vous a pas échappé, le trafic aérien a fortement chuté en quelques mois. Ces algorithmes sont du coup moins enrichis. Une baisse du nombre d'avions dans le ciel qui ferait perdre jusqu'à 3 jours de fiabilité. Et avant le Covid, 80% des prévisions étaient fiables à 6 jours. Aujourd'hui, il est difficile d'y voir plus clair au-delà de 3 jours. C'est donc énorme. Stéphane, ne me demandez pas le temps s'il fera beau à coup sûr pour votre barbecue dans une semaine.
C'est bien, j'ai pas de barbecue. Mais
ça marche aussi pour Louis Baudin. Ça veut dire qu'il va falloir limiter notre confiance.
Non, pas Louis Baudin,
il a ses avions privés.
Je pense qu'on peut oublier les deux autres infos pour briller.
Ah ouais, c'est bien.
Je suis pas certain.
Je mets une pièce sur celle-là. Je dis ça comme ça. 19h29.
Arrêtez tout.
Allume la lumière.
Allume la lumière dans On défait le monde, c'est le moment où un expert vient éclairer l'actualité.
Et cette semaine, évidemment, l'actu, c'est le calendrier du déconfinement, la liberté retrouvée. Sauf que du côté des associations de protection des animaux, on regarde ce déconfinement avec une certaine crainte.
Oui, on s'est demandé pourquoi il y avait une crainte, s'il y avait eu un effet des différents confinements sur nos rapports aux animaux et bien entendu s'il y avait des solutions face aux abandons.
Et ces trois questions, on les a posées à Jacques-Charles Fonbonne, c'est le patron de la SPA. Et d'abord, pourquoi craindre ce déconfinement pour les animaux de compagnie ?
Ce dont on a peur maintenant avec le déconfinement, c'est d'abord que des gens aient pris des animaux, acheté des animaux sans trop réfléchir. Nous, on les oblige à réfléchir dans nos refuges. Mais si les gens ont acheté des animaux, ils peuvent se rendre compte d'un coup qu'il faut retourner travailler, que l'animal est encombrant. Il y a autre chose que l'on craint, c'est que les animaux qui auraient été pris jeunes, par exemple, et qui auraient vécu presque une année et demie avec des gens auprès d'eux, se retrouvent tout seuls du jour au lendemain dans une villa ou dans un appartement. Ils sont perdus, ils sont angoissés, donc ils vont se mettre à aboyer, surtout si c'est des chiens, avec le lot de mécontentement des voisins, des copropriétaires, ce qui risque ensuite évidemment de provoquer des abandons. Ça existe, hein, on part en voiture ou on s'aperçoit que l'animal est encombrant parce que la voiture est pleine, on a les bagages, on a le chien sur les genoux, et puis au bout d'un moment ça devient insupportable, donc on va l'accrocher à la grille d'autoroute en essayant de pas se faire voir et puis on va s'en aller. Je rappelle que c'est une infraction délictuelle.
Infraction délictuelle, ça veut dire que c'est un délit, donc que vous êtes passible de 30 000 euros d'amende et de 2 ans de prison en cas d'abandon d'un animal.
Là, on a parlé du déconfinement, mais est-ce qu'il y a eu un effet confinement ?
Bah oui, en tout cas, c'est ce que pense le président de la SPA.
Alors vous savez déjà, l'an dernier, au premier confinement, on pouvait justifier d'une heure de promenade en promenant son chien. Je pense que les gens ont été tentés d'acheter des animaux justement pour sortir. Je pense qu'il y a eu un regain d'intérêt pour l'animal parce que c'est un compagnon. Puis après, c'est le changement de vie. Les gens bougent moins, partent évidemment moins en vacances. Donc ils sont moins tentés d'abandonner leur animal qui pourrait être encombrant. Et puis comme on sort moins, qu'on se promène moins, en fait les animaux se perdent moins. Donc ils sont moins divagants.
Moins divagants, ça veut dire moins de chiens errants. Et si jamais on ne peut pas faire autrement que d'abandonner son animal, il y a des solutions quand même.
Bah oui, alors c'est le patron de la SPA qui vous la donne, la solution, tant bien que mal, et il reste optimiste.
Si les gens sont vraiment pris dans une situation où ils doivent abandonner leurs animaux, qu'ils nous les amènent. On leur fera pas mauvais accueil dans les refuges, on leur fera pas la morale. On préfère qu'ils nous amènent les animaux pour les abandonner plutôt que de les accrocher aux grilles d'autoroute et de se barrer lâchement. Nous voulons absolument obtenir du législateur l'interdiction de l'achat des animaux sur Internet. habitats parce que ça favorise vraiment le trafic et de l'achat des animaux dans des animaleries parce que ça favorise l'achat impulsif parce que quand vous achetez, on vous demande rien. Vous achetez, vous faites un chèque ou une carte bleue et vous partez avec l'animal comme un objet. Donc nous voulons obtenir du législateur que l'on ne puisse plus prendre d'animaux autrement que chez des éleveurs. J'ai l'espoir que les gens deviennent de plus en plus raisonnables dans leur rapport à l'animal. Peut-être que finalement, avec le travail qu'on fait dans les écoles en termes de pédagogie, peut-être que petit à petit, l'idée rentre dans les esprits de nos concitoyens que l'animal n'est pas un objet. Et à force de le répéter, peut-être que ça finit par s'inscrire dans le conscient des gens.
Voilà. C'était bien de le répéter une nouvelle fois dans Défait le Monde ce soir. Sujet qui passionne toujours les auditeurs. Abandon des animaux avec Allume la lumière à 19h32.
À suivre dans On défait le monde.
La deuxième info pour briller qui va devoir challenger celle de Laurent qui était très bonne. Le loser et le jeu.
Oh, pression.
A tout de suite.
On défait le monde dans RTL.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
19h35, la deuxième de ce soir avec Brice, on prend la direction de l'espace.
Oui, une semaine après le lancement de la fusée, vous savez, de SpaceX à Cap Canaveral aux États-Unis, je voulais revenir sur ce terme qui qualifie les voyageurs, les travailleurs de l'espace.
Alors, oui, mais ça, on connaît, astronaute, spationaute, vous n'allez pas faire ça quand même.
D'accord, donc vous connaissez tout. Ouais. Comment on dit en Inde pour un Indien?
Je ne sais pas.
Eh bien, vous ne savez pas, évidemment. On appelle ça un vyomanaute, V-Y-O-M-A-N-A-U-T-E.
Il l'a inventé.
Ça vient de Vyoman, qui en sanskrit est la vieille langue indienne, veut dire le ciel. Et sachez par ailleurs que ce mot, c'est le seul mot dans la langue française qui désigne un métier qui change de nom en fonction de la nationalité du professionnel.
J'ai une question subsidiaire, parce que vous m'avez piégé là.
Taïkonaute pour les Chinois. Et après,
non, vyomanaute là, ils ont déjà envoyé quelqu'un en Inde?
Oui,
les
ils ont envoyé en 1984 sur une fusée russe et il s'appelait Rakesh Sharma.
Il avait préparé.
Absolument, je l'avais préparé, je savais très bien que vous alliez.
Il n'avait pas dit qu'il l'avait préparé, c'est ça le pire.
19h36.
RTL. De la semaine.
Ah, le grand perdant de la semaine, le loser. Et vous avez été gâté cette semaine, Laurent, parce qu'on n'est pas loin de la séquence culte, là, avec ce député un peu trop sûr de lui sur BFM TV.
Oui, c'est un député de La République En Marche qui s'est illustré, et pas des moindres, Julien Borowczyk, député de la Loire, vice-président de la Commission des Affaires Sociales, un CV riche, l'expérience du terrain, prêt à intervenir sur les plateaux, arguments bien préparés. Et lundi dernier, chez nos confrères de BFM, il échange avec le journaliste Philippe Corbet sur les chiffres de la vaccination entre la France et nos voisins anglais.
Pour l'instant, on est encore loin du chiffre, puisqu'ils sont derrière nous, en termes de nombre de personnes vaccinées en deux doses.
Si.
L'Angleterre,
ils sont bien devant nous.
Ah non, pas l'Angleterre. Non, l'Angleterre est derrière nous en deux doses.
Devant nous, derrière nous, qui dit vrai? Ça sent le combat, la petite battle. Le désaccord entre le journaliste et le député de La République En Marche, qui insiste. Ah oui, la France est bien devant sur le nombre de personnes vaccinées en deux doses.
Ah non, je peux vous l'assurer, vous pouvez regarder les chiffres.
Bon, regardez.
Avec grand plaisir. Ils sont derrière nous. Ils sont loin devant nous en une seule dose, mais ils sont derrière nous en deux doses.
Alors, docteur,
à quelque chose près, hein.
Aucun doute sur cette affirmation, le député très confiant, sûr de lui. Mais on va regarder, prévient le journaliste Philippe Corbet, sauf que l'élu a pu oublier un petit détail. Il existe une merveille technologique dans les studios au 21e siècle.
Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information qui parcourent le monde avec un simple clavier d'ordinateur.
Et on peut en savoir des choses rapidement sur Internet. Notre confrère sent bien qu'il y a un petit défi, un petit challenge. Ah, et si vous avez une bonne connexion Wi-Fi, un bon réseau, le résultat de vos recherches arrive assez rapidement, en deux minutes.
On évoquait il y a quelques instants les chiffres de vaccination en France, donc 5 500 000 deuxième doses. Je viens de chercher les chiffres au Royaume-Uni, donc qui ont été mis à jour il y a exactement 1h26 minutes. 12 897 000 seconde dose, les chiffres officiels il y a 1h25.
Là, ça sent la leçon en direct, le chaos. 5 millions en France qui ont reçu 2 injections, 12 millions pour nos voisins. Bon, on sort quand même la calculatrice, histoire de... 2 fois plus donc de personnes vaccinées en deuxième dose chez nos amis anglais. Mais attendez, que disait déjà le député de La République En Marche?
Ils sont derrière nous en termes de nombre de personnes vaccinées en deux doses. Non, derrière nous en deux doses.
Ah, ça fait mal. Comment Julien Borowczyk va-t-il pouvoir se sortir de cette situation? Quelle réaction adopter?
C'est pas les chiffres que j'avais, mais bon...
Mais c'est les chiffres qu'on a tous les jours et on a
beau répéter tous les jours sur toutes les 24 heures. C'est pas les chiffres que j'avais, mais bon...
Mais c'est les chiffres...
Là, t'es foutu.
Ah oui, là, après, il faut réagir vite dans l'interview. Alors, parlons de la défiance de certains Français sur le vaccin AstraZeneca, mais il faut bien le faire parce que le journaliste Philippe Corbet veille encore.
Je dis simplement, prenons tous nos responsabilités là-dedans. Tous. Et communiquons sur le fait, parce que l'Angleterre, c'est que de l'AstraZeneca. Que essentiellement l'AstraZeneca. Et du Pfizer.
Ah, il était là.
Ah, c'est terrible.
Et après quelques secondes plus tard, bah, on peut oublier assez vite que l'on s'est trompé.
Je voudrais vous essayer de diluer de manière collective le problème que vous avez au gouvernement et que là vous y étiez pris en défaut sur la vaccination.
Ah non, pas du tout. Député s'est planté, volontairement ou non, on n'en sait rien, mais quand même, il devrait être bien au courant des chiffres de la vaccination avec sa profession d'origine.
Je suis médecin généraliste avant tout, mais c'est vrai qu'effectivement je fais de l'homéopathie, de l'ostéopathie.
Ah, c'est dur. Ah, oui, là, en plein dans le mille. Et surtout qu'en avril 2019, Julien Borowczyk était intervenu lors d'un salon des affaires publiques. Le thème, la santé publique à l'épreuve des fake news. Oh, ça ne s'invente pas. Le député médecin généraliste était prévenu. Il est notamment spécialisé en mésothérapie inventée par le docteur Pistor, qui avait cette devise valable si vous vous lancez dans une fake news, injectez peu, rarement, mais surtout au bon endroit.
Ah ouais. On peut d'ailleurs peut-être rappeler qu'il est très courageux parce qu'il affronte Philippe Corbet, qu'on connaît bien ici. C'est un ancien de chez nous qui a été formé à RTL. Et en termes de précision, je pense qu'on fait difficilement.
Mais je crois qu'il ne le connaissait pas.
À mon avis, maintenant, il le connaît.
Il le connaît bien. Ouais. Titre de loser de la semaine à 19h39. On a un cadeau pour les auditeurs.
Attention, les amis, là, il y a du jackpot dans l'air.
Monsieur Cadeau.
Oui, Monsieur Cadeau, Grégory Caranoni, vous vous êtes surpassé ce soir.
Ah oui. Vous rêvez de vacances ?
Oui.
On en rêve tous. La différence entre vous qui nous écoutez et nous ici à Neuilly, c'est que grâce à Odalis, on vous offre ce soir, écoutez bien, une semaine de vacances pour 4 personnes dans une des résidences Odalis. Mer, montagne, campagne, vous pourrez choisir parmi plus de 400 hébergements en France et en Europe du Sud, de la Côte d'Azur à la Bretagne, de l'Algarve au Pays de la Loire, de la Provence à Porec. Porec, c'est en Croatie pour Brice Jeuny, mais j'imagine qu'il le savait déjà. Vous l'aurez compris, un choix immense de vacances qui s'annonce être un délice. Commencez à rêver en allant sur odalis-vacances.com. Odalis, O-D-A-L-Y-S.
Eh ben, ça fait rêver.
Mais pour ça, il faut une question, n'est-ce pas ?
Oui, la fameuse question dont défait le monde. Et attention, on innove. Vous vous souvenez certainement de ce jeu.
Voici Géopardy.
Géopardy. Alors, je vous rappelle le concept du Géopardy. On donne une réponse et c'est vous qui devez trouver la question qui correspond. Et oui, on change la formule. Eh bien, pour gagner ce séjour, on va faire un Géopardy. Attention, la réponse est Joe Biden. La réponse est Joe Biden. Quelle question a pu susciter la réponse Joe Biden ? A. Qui est le président des États-Unis ? Joe Biden ? Qui risque de se présenter au régional face à Valérie Pécresse ? Joe Biden ? Ou qui a volé l'orange du marchand ? Ben ça, c'est pas Joe Biden. Vous avez la bonne réponse. 32-10, on tirera au sort parmi les bonnes réponses et on passera un coup de fil au gagnant. Je rappelle, une semaine de vacances pour 4.
Super cadeau et super innovation, ce petit Géopardy comme ça en direct
c'est
à la radio.
C'est une des brises du génie.
Et si l'auditeur est très bon et qu'il invente une bonne question, genre qui n'est pas dans le studio de RTL ce soir, est-ce que ça marche ?
Non.
Je pense qu'on peut avoir un regard un peu large sur les questions.
32-10, le standard est ouvert dès maintenant à 19h42.
On défait le monde sur RTL.
Le billet retour, le droit de suite quand on vous donne des infos sur une info qui a disparu de l'actualité.
Et ce soir, direction la Birmanie. Souvenez-vous, le 1er février dernier,
un coup d'état militaire a eu lieu.
L'armée, la Tat Madaw, contrôle désormais l'ensemble des institutions.
Prix Nobel de la paix, icône de la démocratie, Aung San Suu Kyi, chef du gouvernement de Birmanie, a donc été arrêté.
La junte militaire reprend le pouvoir par la force. Aung San Suu Kyi est arrêté. Résultat, dans les jours qui suivent, des manifestations monstres réprimées par la force. Bon alors Brice, 3 mois plus tard, il y a encore du monde dans les rues ou pas ?
Alors les cortèges se sont clairsemés, beaucoup, et à cela une explication, la répression. 760 manifestants, 760 ont été tués par la police et l'armée au service de la junte et plus de 3300 personnes ont été emprisonnées. Évidemment, cela décourage même les plus téméraires. La terreur fait son œuvre en Birmanie, même si quelques petits groupes de petits cortèges continuent de demander dans les rues le retour de la démocratie et la libération d'Aung San Suu Kyi, notamment depuis le début de la semaine. On a vu des petits groupes, quelques dizaines, quelques centaines qui sont revenus dans les rues, car le général, le chef de la junte, a quitté le pays pour la première fois pour se rendre à un sommet international avec d'autres pays asiatiques, justement pour parler de l'urgence birmane, et le peuple a voulu rappeler sa colère au moment de ce sommet.
Et sommet, il a donné quelque chose ?
Il a donné un communiqué dans lequel les pays demandent un peu mollement l'arrêt des violences. La junte militaire birmane s'y est engagée, mais dans les faits, évidemment, il faudra voir ça. Mais pendant le sommet, ce qui est assez remarquable, c'est que Barack Obama, l'ancien président américain, a pris position sur la Birmanie dans un texte qu'il a publié sur Twitter.
Les pays voisins de la Birmanie doivent bien avoir en tête que reconnaître et dialoguer avec un régime meurtrier rejeté par le peuple ne fera qu'apporter une plus grande instabilité, une crise humanitaire et le risque d'un état défaillant. C'est une période sombre, mais la Birmanie peut se trouver un avenir avec des leaders qui respectent les valeurs démocratiques et la volonté du peuple.
Et l'intervention d'Obama et des pays asiatiques, ça ne peut pas enclencher quelque chose au niveau des Nations Unies, par exemple ?
Eh ben, au niveau des Nations Unies, il y a la Chine et la Russie au Conseil de sécurité. Et ces deux pays sont proches des militaires birmans avec lesquels ils ont de bonnes relations et ils veulent les conserver. Donc ils ne sont pas favorables, les Russes et les Chinois, à une intervention de la communauté internationale. La réponse de Moscou, elle est assez claire. C'est un problème interne. La Birmanie doit donc résoudre elle-même ses problèmes. Point final.
Et on en parlait en introduction. Aung San Suu Kyi, on sait où elle est, où elle a été jugée, emprisonnée.
Alors, elle est détenue, mais personne ne s'est eu détenue au secret, comme on dit. A priori, dans la capitale, Naypyidaw, mais elle n'a fait aucune apparition publique. Lundi dernier, la prix Nobel 1991, âgée aujourd'hui de 75 ans, a assisté à une audience judiciaire qui la concerne. C'était en visio, à distance. Une nouvelle audience dans laquelle elle a demandé à s'entretenir avec ses avocats parce qu'en 3 mois, elle n'a même pas eu droit de les voir. Cette demande a été rejetée. L'audience a finalement été renvoyée au 10 mai. Un nouveau report de calendrier. Je vous rappelle quand même qu'au moment de son arrestation, on lui reproche l'importation de Tokiwoki, les télécommunications, vous savez là-bas, c'est assez important. Le non-respect des règles liées au Covid, c'était un peu dérisoire. Aujourd'hui, elle est accusée de corruption. Elle est poursuivie pour incitation au trouble à l'ordre public. Bref, la junte militaire trouvera de toute façon largement de quoi la maintenir en détention.
Et pour l'opposition, il y a encore un espoir ?
Alors, certains opposants anciens députés se sont réunis dans une sorte de gouvernement provisoire qui essaye de promouvoir la démocratie, mais on peut douter de leur efficacité face aux militaires et face aux armes. Et dans certaines régions du pays, surtout les régions frontalières, il y a des rebelles qui appartiennent, vous savez, à des minorités qui ont été beaucoup persécutées par les militaires, qui profitent un peu de l'instabilité pour prendre les armes, affronter la junte pour éviter qu'elle revienne au pouvoir. Et pour la première fois depuis 20 ans, l'armée a essuyé quelques revers et a dû faire appel à ses avions de chasse et à des frappes aériennes dans le sud-est du pays, ça n'était pas arrivé depuis 20 ans.
Dernière chose, Brice, ça a aussi des conséquences sur la vie quotidienne ?
Oui, dans un pays qui était déjà très frappé par la pauvreté, par le Covid. Maintenant, la grève générale et la situation politique paralysent le pays. Le PAM, c'est le Programme Alimentaire Mondial qui fait référence dans le domaine, dit que dans les 6 mois, plus de 3 millions, près de 4 millions même de Birmans pourraient souffrir de la faim. Dans le texte du PAM, il est écrit cette phrase, « La faim et le désespoir sont en train de gagner toute la Birmanie. »
La Birmanie, donc le billet retour de Brice Degeny, le grand reporter du service étranger de RTL dans Défait le Monde. Il est 19h46. Dans un instant, la troisième info pour briller au dîner, c'est avec Cyprien. Et je vous annonce un invité exceptionnel en direct avec nous dans quelques minutes. A tout de suite.
Regardez, ils se questionnent tous, c'est marrant.
On a 40, on a 45.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
C'est déjà la troisième ce soir en voiture, Cyprien Signy.
Bah oui, on a appris cette semaine que Renault Dacia allait brider ses futures voitures à 180 km/h. Alors déjà 180 en Dacia, faut le faire. Hein. Mais bon,
c'est
moi,
ça l'info ?
Non, je vais vous raconter l'histoire de la première voiture à avoir dépassé les 100 km/h. Ça se passe à Achères, pas loin de Paris. Nous sommes le 29 avril 1899. Il y a 122 ans, quasiment jour pour jour, le pilote belge Camille Genazzi est au volant de son véhicule qu'il a baptisé la Jamais Contente. Il atteint la vitesse record de 105 km/h. Mais surtout, cette voiture, eh ben c'était une voiture électrique. Oui, la première voiture à avoir passé les 100 à l'heure était une voiture électrique.
Eh ben. Oh, pas mal. Moins, pas bon, mal. Moins bon.
Moins bon.
Mais pas
moins,
mal.
Mais pas mal.
Un bon début.
Et pour Cyprien, excellent.
Un Greg Maillard s'est couru depuis le départ.
Ah, c'est gagné d'avance pour Laurent.
On l'a bien
non.
Ah, on va confirmer tout ça tout à l'heure.
Je me sens bien.
19h49.
Marche.
Je sais même plus avec quoi il nous a fait briller.
Marche au rêve, c'est quand on met en valeur vos initiatives, vos projets.
Oui, nous avons décidé de reprendre des nouvelles d'un aventurier de l'extrême. Claude, je ne sais pas si vous en souvenez, 38 ans. Il était avec nous le 5 mars. Son objectif, c'était de parcourir 6000 km à pied le long du Nil.
Ouais, l'ancien légionnaire est parti début avril pour cet exploit sportif, cette mission humanitaire. Il doit délivrer des médicaments aux populations qu'il rencontre au programme 7 pays, dont le Rwanda, la Tanzanie ou encore l'Ouganda. Bonsoir Claude.
Bonsoir à tous.
Vous vous trouvez actuellement au Burundi, alors pour des raisons de sécurité, on ne dira pas où précisément dans le pays. Racontez-nous ce que vous avez vu depuis votre arrivée.
Alors bah, écoutez, j'ai été quand même assez surpris, malgré que ça soit un pays sous-développé et très pauvre. C'est un des pays les plus pauvres que je traverse. Il y a beaucoup de villages et hameaux, donc il y a où je passe en fait, c'est sur mon chemin, donc pour aller jusqu'à la source du Nil, donc du milieu du Burundi.
Et pour la nourriture, comment ça se passe, Claude? C'est pas trop compliqué pour vous?
Alors justement, ça aussi, c'était, si j'en parle au passé, c'est qu'il y a quand même certaines choses qui sont modifiées. La base, c'était de vraiment de pouvoir chercher la nourriture par moi-même et de dormir dehors, bien évidemment. Sauf que dans la réalité, comme justement, je n'ai pas cette rencontre avec toute cette faune, en fait, ni flore, ni animaux sauvages, en fait, il n'y a vraiment pas ça. C'est plus des animaux domestiques que je rencontre avec dans les villages. Et bien évidemment, bon, il n'y a pas de restaurant, c'est plus des bouis-bouis que ce genre de choses. Ce que je fais, c'est que tant que je trouve des choses autour de moi, fruits et légumes et ce genre de choses, ou que j'arrive à attraper des petits rongeurs, bien sûr, parce que je suis en semi-autonomie de survie, je me débrouille maintenant. Et c'est vrai qu'il y a des jours où je marche et il n'y a rien de tout cela. Donc du coup, j'ai quand même une réserve de nourriture qui me permet de pallier à ça pour garder de l'énergie.
Et la santé, comment ça va alors ?
Alors ben, écoutez, j'ai fait face à il y a quelques jours de cela à une très très grosse intoxication alimentaire. Justement, ça a été le seul jour où j'ai mangé entre guillemets local. Je sais pas que c'est tout le temps pareil, mais comme quoi il faut vraiment vraiment faire très très attention à l'hygiène quand on va dans un pays étranger. Ce qui m'a valu d'avoir un très grave virus qui m'a fait monter la température à 40 de fièvre et un séjour donc d'une journée à l'hôpital en urgence. Et les forces sont revenues, donc on a repris la route. D'ici une dizaine de jours, j'aurai certainement rejoint la rivière qu'il y a en Tanzanie, et pas très loin de la frontière ougandaise.
Et au niveau du Covid, vous vous sentez loin de tout ça ou pas ?
Non, du tout, du tout. En fait, on est obligé de présenter un test à chaque frontière, de test Covid, donc négatif. Si tant est que vous l'ayez, si vous l'avez pas, on vous le fait passer en fait aux frontières. Donc bien évidemment, on vous fait attendre pendant 24 heures, et je vous passe. Il y a pas de chambre d'hôtel, c'est pas ce genre de choses. Vous restez en extérieur, vous attendez en fait les résultats le lendemain, et vous vous débrouillez comme vous voulez pendant les 24 heures d'attente.
Ce périple, vous saviez qu'il allait être difficile. Est-ce qu'il est encore plus dur que ce que vous imaginiez?
Oui, bien évidemment. Je savais qu'il allait être très difficile, mais là vraiment, c'est au moins deux ou trois niveaux au-dessus facilement, entre justement toutes ces situations administratives, entre toutes ces situations de santé que je peux rencontrer. Malgré ça, voilà, il y a eu la rencontre au Burundi avec la première ONG qui est à portée de main, qui a été extraordinaire. Ils font un boulot super. Et d'ailleurs, c'est ça en fait qui fait que cette expédition est belle, c'est que on se rend compte en fait du réel travail entre guillemets que je fais en allant là-bas, en les rencontrant. Même eux ont été très contents en fait de pouvoir recevoir la personne qui va aider leur organisme de par les médicaments que je délivre. Bien sûr, ils sont en petite quantité parce que ben je suis un peu restreint par rapport au sac à dos que j'ai. Mais c'est surtout significatif. Mais il y a bien évidemment mon association en fait qui verse un aspect financier à chaque ONG que je croise.
Eh ben bravo Claude, courage à vous pour les prochains jours. On prendra de vos nouvelles évidemment dans quelques semaines. Prenez soin de vous.
Merci. Alors si je devais faire passer un petit message, je dirais que parce qu'il y a des gens en fait que je n'ai pas réussi à avoir par rapport à ce qui m'était arrivé à l'hôpital, leur dire que tout va bien évidemment, et que toutes les personnes qui veulent suivre en fait cette aventure, elles n'ont qu'à tout simplement marquer mon nom et mon prénom, donc Claude Cazès avec un Z sur les réseaux sociaux. Voilà.
Et on vous suit, Claude. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Marche ou rêve ?
Fin du suspense, on a un gagnant, une gagnante ce soir.
Un super gagnante cadeau. Gagnante, Séverine de Versailles. Bonsoir,
oui,
Séverine.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir à vous.
Je suis super contente, je suis ravie de
attendez,
vous avoir.
Attendez, vous n'avez pas gagné encore.
Mais bon sang, j'ai le droit d'être ravie quand même de vous avoir.
Exactement. Voilà. Vous saluer aussi, même si on n'est pas Stéphane. Ouais.
Et toute l'équipe, bien sûr.
Bonsoir Séverine.
Bonsoir.
Alors Séverine, on a fait un petit géopardi ce soir. Donc la réponse est Joe Biden. Quelle question ?
Alors, qui est le président des États-Unis ?
C'est bien.
Ouais.
Donc, une semaine pour 4 personnes dans un des 400 villages Odalis.
C'est
un super cadeau. Hein.
Ah, génial. Voilà. Génial, ouais.
4 personnes, vous partez en famille, avec des amis ?
Avec Stéphane.
Ah. Ah, bah, pourquoi pas ?
Pourquoi pas,
Vous connaissiez le jeu Géopardi?
Non, j'ai découvert ce soir avec vous.
Et oui, parce que ça a marché en France seulement en 90-91.
Ah, très bien, vous avez.
Et ça a marché que 2 ans en France.
Philippe Risoli, non ?
Philippe Risoli.
D'accord. Ah.
Mais aux États-Unis, par contre, c'est un carton depuis. Ça a cartonné pendant 40 ans.
D'accord.
Séverine, vous raccrochez pas, on va prendre toutes vos coordonnées. On vous souhaite que des belles choses.
Et
un beau moment.
Et bien, je vous remercie beaucoup.
À bientôt.
Merci
que
votre.
Que toute l'équipe prenne soin d'elle aussi.
Merci.
Voilà.
Merci.
Merci beaucoup.
Vous nous avez une carte postale, évidemment.
Bah, bien sûr.
On va peut-être dû offrir un téléphone plutôt qu'un.
Au moins une liaison 4G.
On a récupéré la ligne. La fin du suspense, donc, Greg, on est d'accord, c'est la première info pour briller de ce soir qui l'emporte.
Incontestablement.
Elle est signée Laurent Tessier.
Je préfère quitter le studio tout de suite.
Et vous savez que dans cette émission, on aime vérifier les infos qui sont données aux auditeurs. Donc, s'il vous plaît, monsieur Louis Bonin est en direct avec nous. Bonsoir, Louis.
Bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir. Ah, Louis, dites-nous que cette info, elle est moisie.
Louis, je joue ma carrière dessus.
Ah, Louis, ça n'a rien à voir avec les avions.
On rappelle l'essentiel. Donc, c'est le Covid, c'est la crise, c'est l'épidémie. Il y a moins d'avions, il y a moins de capteurs, donc il y a moins de précision.
Difficile d'y voir plus clair au-delà de 3 jours.
Et c'est ça, exactement. En tout cas, ça a affecté la qualité des modèles qui servent à faire les prévisions, parce qu'effectivement il y avait moins d'informations initiales et surtout en altitude, parce qu'au sol c'est facile d'en avoir, on peut substituer une station à une autre, mais en altitude, hormis quelques ballons envoyés, ensuite sont les avions qui fournissent automatiquement ces stations. Ils sont tous équipés de capteurs de température, de pression, d'humidité à ces altitudes, et donc c'est envoyé automatiquement. Donc quand il y a moins d'avions, il y a beaucoup moins d'observations en altitude, donc ça altère effectivement la qualité de la prévision au moins à 2-3 jours.
Oui. Mais évidemment, Louis, les vôtres de prévision, elle reste impeccable.
Ah bah forcément, bah oui, bah sur
RTL. Vous avez d'autres astuces, vous.
On a d'autres, voilà.
Vous volez d'ailleurs, je crois.
Voilà,
vous, tout
je
seul.
Vole, mes propres ballons. Non. On essaie juste d'en tenir compte et c'est vrai que les modèles ont pallié petit à petit à ce manque d'informations pour essayer de corriger un peu. Mais c'est clair que de toute façon, dans l'absolu, plus on a d'observations et notamment en altitude, plus on peut espérer faire de meilleures prévisions.
Qu'est-ce qu'il explique bien les choses. Ouais.
Il
merci, est trop
Louis.
Fort.
Merci, merci Louis. Beaucoup, Louis. Merci. Je vois que nous vérifions les infos pour briller maintenant.
Non mais c'est que quand c'est les vôtres.
Voilà, c'est ça.
C'est Laurent qui a gagné. Merci Louis Bonin. Bon week-end à vous. On vous retrouve très vite sur RTL, bien sûr, dès lundi matin. On vous souhaite le meilleur, toute l'équipe. Rendez-vous vendredi prochain.
Avec plaisir.
À la semaine prochaine.
Salut. Et ce soir, juste après 20h, le foot avec nos amis. Et surtout un match, les amis, il ne faut pas le rater. Marseille-Strasbourg avec Sampaoli.
Allez, c'est parti.
Allez l'OM.
Et bravo Laurent. Ouais.
Bravo Laurent. Merci. Vous êtes des amis.
Quel scandale.
On défait le monde dans RTL.